France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour sur France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous et pour vous conduire dans Soleil, rendez-vous protestant, un magazine proposé par la Fédération protestante de France. Alors dans quelques jours, vous le savez, c'est le 21 juin, ce sera la 44e fête de la musique, et oui, 44 déjà. Un jour de fête pour tout le monde, avec toutes les musiques et sur tout le territoire. Et bien sûr, sur France Culture et dans Soleil aussi, avec deux émissions où la musique sera notre invitée principale. Dimanche prochain, avec le musicien et conférencier Gabriel Alonso, qui nous entraînera aussi à réfléchir autour d'une forme de théologie à partir de son parcours de musicien. Et puis ce matin, avec Thibaut Foulon, pour parler de jazz et de protestantisme. Bonjour Thibaut Foulon.
Bonjour Jean-Luc.
Protestantisme et jazz, et bien finalement, ça résume un peu votre vie, votre parcours, on peut le dire comme ça.
Oui, en quelque sorte.
Ça ne dit pas tout, mais une grosse partie.
Ça ne dit pas tout. Ça dit une grande partie de ma vie. Ben, écoute, je suis né dans une famille protestante, plutôt évangélique, où la musique était assez présente avec des parents mélomanes, et j'ai commencé la batterie à l'âge de 8-9 ans. C'est surtout ma mère, voilà, qui m'a initié au jazz en me trimballant pour aller voir des concerts.
Ouais. Pourquoi la batterie ?
Pourquoi la batterie ? Alors, très bonne question, puisqu'en fait, au départ, je voulais faire de la guitare électrique, comme tout le monde.
Comme tous les jeunes.
C'est ça.
Faire du bruit.
Mais en fait, on est parti voir un concert, et je devais avoir peut-être 7-8 ans, il me semble. Et j'ai été fasciné par le batteur, et à la sortie du concert,
c'était ça
quoi. Ouais, voilà, et puis ça évident. S'est confirmé au fil du temps.
Études classiques.
Alors j'ai commencé dans les écoles de musique, municipales, et puis avec aussi des professeurs de batterie locaux, et puis j'ai fait un passage à Paris où j'ai pu aussi aller au conservatoire du 9e pendant 2 ans, et voilà, donc j'ai fait un petit peu mes armes comme ça. Et j'ai eu la chance, un jour, ça c'est une petite anecdote assez sympa, j'étais en train de feuilleter un magazine de jazz, Jazz Hot, ça n'existe plus malheureusement.
C'était la référence.
C'était la référence à une époque, et je lisais un article de John Betch, un batteur américain, afro-américain, qui réside à Paris, et du coup je l'ai appelé pour lui demander s'il donnait des cours, et il m'a dit... Come tomorrow and see me. Donc, du coup, je suis allé le voir le lendemain. On a bu du thé, on a fait de la batterie, et puis on s'est lié d'amitié. Et puis c'est comme ça que j'ai pu rencontrer d'autres batteurs américains sur Paris. Et j'ai voulu m'initier auprès d'eux pour être au plus proche de cette tradition afro-américaine qu'est le jazz.
Et alors, on disait jazz et protestantisme. Voilà. Du côté protestant, alors parents donc chrétiens,
oui.
Protestants évangéliques. Votre parcours ?
Alors parcours un peu
rapidement.
Parcours un peu chaotique. Non, mais disons
avec des hauts et des bas.
J'ai en tant que jeune batteur, j'ai pu faire de la batterie aussi à l'église, ce qui était une expérience intéressante.
Oui, parce que dans les églises protestantes, et notamment celles plutôt de tendance évangélique, il y a souvent aussi des instruments contemporains, et notamment la batterie.
Alors oui, effectivement, mais bon, après moi, dans l'église où j'allais, on n'était pas non plus dans le gospel très actuel,
moderne.
Mais voilà, très moderne, mais on avait plutôt une approche assez jazz fusion.
Donc ça vous convenait bien.
Ça me convenait bien, et puis en fait le fait de jouer à l'église m'a appris à savoir accompagner les chanteurs, en fait.
Être à l'écoute,
voilà, me mettre au service finalement de la voix, et puis aussi de l'assemblée. Et un jour, j'étais à Paris dans mon église, et on avait fini le temps de louange, et il y a une vieille dame qui vient me voir à la fin du culte, qui me dit « Quand je vous regarde faire de la batterie, j'ai envie de louer le Seigneur ». Et voilà, j'étais très content parce que je me suis dit, ben voilà, émission accomplie quoi.
Alors prenons quelques instants justement pour vous écouter. Vous êtes à la batterie, c'est un extrait en concert et le morceau s'appelle Sister Jack. Thibaut Foulon, que l'on entend là à la batterie, en concert. Tout le monde connaît a priori ce qu'est le jazz, mais très rapidement quand même, est-ce que vous pourriez nous faire un petit ancrage historique ?
Oui, je vais essayer. En tout
cas,
voilà,
compliqué de le faire très courtement.
Oui, c'est compliqué. Bon, voilà, c'est le jazz est né donc aux États-Unis à la fin du 19e siècle, au contact de plusieurs musiques. Donc voilà, donc au sein des communautés plutôt afro-américaines. Donc on dit 1895 comme date officielle, mais bon, voilà, comme vous savez,
c'est compliqué de dater.
Mais voilà, donc plutôt dans le sud des États-Unis, donc on va évidemment penser au delta du Mississippi pour le blues, à la Nouvelle-Orléans pour tout ce qui est jazz et second langue. Voilà, mais en tout cas, le jazz, c'est surtout une musique communautaire, d'abord des populations noires, et se mêle à la fois le ragtime, qui est donc une forme de piano solo,
manière de jouer,
les marches aussi, comme les marches funèbres, les marches militaires, un peu de musique classique aussi, la polka, et enfin voilà, donc tout ça vient
des
en fait,
différentes.
Voilà, des rythmiques, voilà. Plus aussi ben la rythmique africaine, ce côté un petit peu ternaire, voilà. Donc ensuite ben voilà, le jazz se développe pendant tout le siècle, enfin tout le 20e siècle. 1930, c'est la période des grands ensembles, le swing, ensuite dans les années 40, le bebop, réaction voilà new-yorkaise au swing qui avait tendance un petit peu à devenir trop commercial, trop blanc si je peux me permettre. Voilà, donc le bebop, musique un peu énervée, très élitiste, on joue à toute vitesse, très très virtuose. Puis après, voilà, le cool, le hard bop avec Miles Davis, Art Blakey, et le free jazz des années 60 aussi.
Alors justement, puisque vous abordez la question du free jazz, c'est intéressant peut-être d'évoquer peut-être cette constante dans le jazz, c'est cette idée de liberté, avec notamment le rôle de l'improvisation.
Exactement. Alors, effectivement, donc l'improvisation est une composante essentielle et même identitaire du jazz, bien qu'en fait, on retrouve l'improvisation dans d'autres styles de musique.
Bien
enfin,
sûr.
Voilà, on peut. Il y a des parties improvisées dans la musique classique. Je pense aussi au Proche-Orient, tout ce qui est makam. Voilà. Ou dans d'autres formes de musique, mais c'est vrai que le jazz met en avant cette liberté d'improviser et en fait bon, l'improvisation ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est un langage et c'est une manière de raconter une histoire sur une structure, puisque le soliste va improviser sur une forme, un standard, avec une grille, voilà. Donc ça c'est plutôt pour les formes de jazz un peu plus pas dire classique, mais parce que même maintenant on continue d'improviser comme ça. Mais voilà, il y a une structure à respecter, on improvise dessus, et c'est surtout voilà le dialogue avec le groupe. Voilà. Après, le free jazz, c'est aussi
va au-delà de ça.
Voilà.
Il oublie même la base presque.
Bah, disons que c'est toujours le. En fait, c'est la question du rapport à la tradition qu'on va peut-être aussi aborder dans le cadre du protestantisme. Mais voilà, c'est le free jazz, c'est l'explosion des barrières. On s'affranchit des structures. Mais le free jazz est né, voilà, dans les années 60 avec tout un contexte américain particulier, les Black Panthers, et des revendications sociales très fortes. forte, c'est très identitaire.
Vous nous proposez, Thibaut Foulon, ce matin, de lire le jazz comme une sorte de métaphore théologique, avec une question sous-jacente. En quoi l'expérience musicale du jazz peut-elle nourrir une compréhension renouvelée de la foi protestante? Alors justement, cette question de l'improvisation que vous abordez comme métaphore de la grâce et de la liberté chrétienne, c'est la première chose sur laquelle vous voulez parler. Je vais vous donner la parole là pour développer ça. Je voulais juste souligner, puisque on a parlé de free jazz, on a parlé aussi d'une liberté poussée à l'extrême en quelque sorte, d'un film qui sort très très prochainement, le 25 juin, qui s'appelle « Au rythme de Vera », qui raconte en fait l'histoire de Vera Brandes, et au travers d'elle, pour reprendre la métaphore du début de film, de l'échafaudage qui permet l'élaboration d'un concert absolument mythique, celui de Keith Jarrett dans l'opéra de Cologne en 1975, où il est seul au piano et où il improvise totalement et uniquement. Mmh. L'histoire est magnifique, le film est très très beau, la musique évidemment, magnifiquement présente là aussi. C'est vraiment un film que je vous recommande. Au cinéma, donc le 25 juin, au rythme de Vera. Et maintenant, je vous donne la parole sur cette métaphore de la grâce et de la liberté chrétienne avec le jazz et l'improvisation.
Oui, c'est bien que tu puisses évoquer Keith Jarrett, voilà, qui est un grand...
C'est le spécialiste.
Voilà, en tout cas, l'un des spécialistes. Ouais. Mais oui, en fait, l'improvisation comme état de grâce, je trouvais ça... intéressant comme approche pour essayer de tisser un lien plutôt théologique entre le jazz et le protestantisme, dans la mesure où, voilà, déjà, comment on se pose face à la tradition, face à un héritage qui nous est donné, qu'est-ce qu'on en fait? Et après, voilà, comment répondre à ça et que faire aussi de la liberté qui m'est donnée face à la grâce. Et du coup, il y a une tension à la fois dans le jazz et dans le protestantisme qu'on retrouve et que je trouve très intéressante. Ensuite, bon, voilà, une métaphore est une manière de d'exprimer les choses. C'est une analogie forcément limitée. Il ne s'agit pas forcément de trouver une identité là-dedans, mais voilà, il y a forcément des limites. Mais voilà ce que je peux.
Vous me donniez quelques exemples quand on a parlé du sujet. Vous me disiez, il y a l'analogie du chef d'orchestre ou du leader d'un jazz band. Dieu et les hommes improvisent ensemble pour faire advenir le royaume.
C'est ça.
Cela pose notamment la question de la toute-puissance divine.
Oui. Alors, c'est vrai que la question de l'improvisation m'interpelle dans. En tout cas, de point de vue personnel, dans mon rapport à Dieu, je trouve que voilà, le jazz est à l'image de la vie, c'est-à-dire une improvisation constante. Face à ce qui nous arrive, même si on fait confiance en Dieu. Mais j'aime cette idée que dans l'improvisation de ma vie, Dieu improvise avec moi, en tout cas m'aide dans cette improvisation. Que c'est ok de tomber, que c'est ok de pas réussir quelque chose.
L'échec est possible.
Voilà, que l'échec est possible et que Dieu l'accepte. Ouais. Et qui tombe avec toi, mais qui c'est celui aussi qui te relève. Mmh. Et voilà, se pose aussi la question de voilà, est-ce que Dieu improvise? Et effectivement, tu disais que voilà, ça remet un petit peu en cause la toute puissance de Dieu. Bon, c'est vrai que c'est un sujet délicat, voilà. Bon, en tout cas, est-ce que Dieu a un plan? Voilà. Ouais. Est-ce que le chef d'orchestre a un plan? Je pense que le chef d'orchestre a un plan. Il arrive avec une partition écrite en disant voilà, j'ai envie de faire ça. Mmh. Ensuite. Ben face à lui, il a pas des pantins, il a des musiciens avec leur propre
histoire,
parcours, individualité,
ouais, envie.
Envie et tout ça qui peuvent dire merde finalement au chef d'orchestre. Ouais. Quoi. Enfin, pardon, j'ai dit un gros mot, mais en tout cas, voilà. Et du coup, que fait le chef d'orchestre? Donc, il dirige, mais il est obligé de composer avec les autres. Mmh. Et je pense que, en tout cas, c'est mon avis, Dieu compose avec nous et ça crée, voilà, une dynamique créatrice permanente, quoi.
Alors, on parle de musique, de jazz, de foi. On va écouter un peu de musique aussi, quand même. Un morceau que vous avez choisi, alors, c'est pas Keith Jarrett, ça aurait pu, mais c'est le morceau Unanimity de l'album Still Dreaming avec Joshua Redman au saxophone, Ron Miles à la trompette et puis Scott Colley à la contrebasse. Enfin, la batterie, il faut quand même le citer, c'est Brian
Blade.
Voilà, version live à Marciac en 2017. C'est une longue version qui dure près de 15 minutes, alors rassurez-vous, on va en écouter quelques secondes simplement. Solo de batterie, j'imagine, ça vous procure des
émotions. Ah bah, des émotions, des émotions. Ouais, non, c'est clair. En plus, Brian Blade, voilà, est un batteur, enfin aussi chrétien, très engagé, voilà. Enfin, donc sa musique aussi transpire de spiritualité.
Fil rouge de nos émissions, le rendez-vous avec la parole pour ouvrir la Bible, écouter quelques instants. Ce matin avec Lydie Jean-Théodore, et c'est un verset que vous avez choisi, enfin deux, les versets 9 et 10, dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 12.
Le Seigneur m'a répondu, « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. Je préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. »
Thibaut, vous qui aimez travailler aussi le texte biblique, d'ailleurs on ne l'a pas encore dit, mais vous terminez actuellement une saison de votre vie où vous occupiez le poste de directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible, Vivre la Parole. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce verset très courtement avant de continuer dans ce parallèle jazz et protestantisme ?
C'est un sujet, enfin c'est un verset que j'affectionne particulièrement, voilà, où... qui rejoint aussi ma vie.
Et ce qu'on vient de dire,
et
finalement.
Et ce qu'on vient de dire aussi, que voilà, enfin, l'échec est possible et que Dieu compose justement avec nos faiblesses, et que c'est voilà que la grâce n'est pas la perfection. La perfection est en devenir en permanence, en fait.
Revenons à cette lecture parallèle jazz-protestantisme. Vous repérez aussi une forme de tension entre tradition et innovation dans le jazz, mais aussi finalement dans la foi.
Oui, je pense que on retrouve, voilà, dans l'histoire de l'humanité, des schémas qui se répètent. Et voilà, le jazz a une forte tradition musicale. Le protestantisme a aussi une forte tradition, un ancrage à la fois biblique, mais aussi un ancrage historique avec, la réforme et puis enfin tout ce qui en découle. Et finalement, on est face à ce questionnement. Que faire face à cette tradition ? Est-ce que j'arrive à évoluer avec ou en dehors ? Que faire de cette liberté que Dieu me donne face à la foi qui m'est donnée ou à cet héritage musical que j'ai reçu ? On peut retrouver aussi, par exemple, des fondamentalistes à la fois dans le jazz et à la fois dans le protestantisme. Enfin, je veux dire, il y en a qui ne jurent que par un certain jazz et d'autres que par telle théologie ou, je sais pas, enfin, voilà, le vrai christianisme, c'est à l'époque du Christ, etc.
Bon, et des deux côtés, on a des gens qui veulent faire bouger les lignes.
Oui, voilà. Voilà, exactement, il y en a qui veulent faire bouger les choses. Mais bon, à la fois, être musicien de jazz, c'est aussi s'enraciner dans un langage. Être chrétien, c'est aussi s'enraciner dans une histoire. Voilà, mais...
Alors, vous nous proposez un extrait musical pour exprimer un peu tout ça. C'est Amazing Grace de John Raymond dans Real Fields en 2016. Thank you. très très beau, John Raymond, Amazing Grace, Grâce infinie sur France Culture dans Solae, où l'on imagine avec Thibaut Foulon le jazz et le protestantisme comme les deux faces d'une même pièce. Ce titre nous fait rentrer aussi dans l'église d'une certaine façon, jazz et culte protestant.
Oui. Alors, c'est peut-être moins évident pour nous en France, comme ça l'est peut-être pour les Américains. En tout cas, enfin, depuis les débuts du jazz, les jazzmen se frottent aussi avec le milieu protestant, l'Église, entre l'Église et les clubs de jazz. Voilà. Et en fait, Duke Ellington a créé toute une suite sur des concerts sacrés. Voilà. Donc, du coup, il y a vraiment aussi il s'est développé dans le jazz toute une culture justement pour intégrer le jazz dans la louange. Alors depuis 1950 à New York, il y a ce qu'on appelle les Jazz Vespers. C'est des services protestants à l'église luthérienne de New York à Manhattan, où il y a des concerts de jazz pour le service de louange,
voilà,
quoi.
Donc, qui accompagne.
Qui accompagne. Et justement, voilà, se pose la question, voilà, de ce jazz, cette musique aussi spirituelle. On pense aussi à John Coltrane.
On l'écoutera pour terminer.
Voilà.
Des artistes comme le saxophoniste Kirk Valium qui a fait plusieurs albums et
exactement.
Des concerts, gospel recording, tout jazz.
Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Comment ?
On est là-dedans,
on est exactement là-dedans. Ouais. Voilà.
Ouais.
Et c'est vrai que il y a effectivement des jazzmen qui ont une foi chrétienne et protestante, mais il y a aussi cette musique jazz comme langage un peu aussi spirituel qui peut justement nous élever et à entrer en lien avec le divin, quoi.
Historiquement, en même temps, les rapports entre profane et sacré au niveau musical, notamment artistique plus largement, ça n'a pas toujours été simple. Moi qui ai travaillé l'histoire d'Aretha Franklin, Aretha et son père vont justement casser les lignes qui étaient plutôt de séparer ce qui était profane du sacré. Et eux vont essayer de les faire se rejoindre. On retrouve ça dans le jazz avec certains artistes, justement.
Oui, effectivement. Après, c'est toujours la même histoire.
Entre tradition.
Entre le profane et le sacré. Ouais. Je pense que à la fois dans le protestantisme et dans le jazz, on retrouve cet élan de vouloir vraiment concilier les deux. Et je pense que à l'image du Christ qui était aussi au milieu de ces deux aspects, en fait.
On peut recommander un très bon livre sur le sujet, c'est Black Church, livre édité par Labor et Fides, qui raconte toute cette histoire de l'église noire américaine et où on retrouve notamment ces enjeux-là. Nous arrivons à la fin de la discussion sur jazz et protestantisme. Comment est-ce que vous aimeriez conclure, Thibaut Foulon, nous laisser comme ultime élément peut-être de comparaison entre les deux, à partir aussi peut-être de votre histoire, de votre vécu ?
Laissez-vous le droit d'improviser, de faire de votre vie non pas une partition toute écrite, mais une partition qui comporte quelques pages blanches, alors non pas d'incertitude, mais plutôt d'élan de confiance, d'improvisation, et puis aussi d'amour de la vie. Le jazz, c'est aussi l'amour de la vie, de la joie de vivre, et voilà, que votre vie transpire cette innovation.
Vous me disiez que le jazz, pour certains croyants, c'était une forme de prière.
Oui. Bon, en tout cas, pour moi, ça l'est. Ouais. C'est méditatif. Et ça me permet, en tout cas, les sonorités me donnent envie de me rapprocher de Dieu. Mais c'est, on pourrait aussi débattre sur cette question de la force de la musique. Je repense
plus généralement.
Plus généralement, bonjour, c'est un débat qui commence aussi avec Saint Augustin, parce qu'il était sensible à la musique et il savait que la musique avait exercé un réel pouvoir sur lui, et donc il préférait plutôt s'en en défaire. Mais la musique a quelque chose d'envoûtant.
Ouais. Le 21 juin, fête de la musique, vous jouez ?
Alors, je joue le 22. Le 21, on m'a proposé de faire un concert, mais les autres ne sont pas là. Donc j'irai probablement écouter les copains.
Et puis le lendemain, à Strasbourg.
À Strasbourg, ouais.
Merci beaucoup Thibaut Foulon pour cette réflexion à cœur ouvert, l'improvisation, un état de grâce, jazz, protestantisme. Et bonne route à vous pour la nouvelle saison qui s'ouvre après la Ligue pour la lecture de la Bible.
Merci.
Un rendez-vous et une destination estivale possible pour début juillet, du 4 au 13 juillet précisément à Lourmarin, près d'Aix-en-Provence, le Festival des Arts de la Parole, dont Sola est le partenaire, avec pour thème cette année, sitôt dit, sitôt fait, la parole performative, pour le dire autrement. Au travers de multiples spectacles, ateliers, rencontres, films, nous nous intéresserons de plus près aux pouvoirs très spéciaux de la parole, car assurément on peut faire bien des choses avec les mots. Comment être alors exigeant avec la parole, la sienne comme celle des autres ? Dans ces temps de post-vérité, il est important de se rappeler que la parole peut être donc performative, quand elle consiste à faire ce qu'elle dit, et constructive. Le sujet est immense, vous l'imaginez, le débat passionnant et les résonances multiples. Dans ces 10 jours de festival, on pourra par exemple entendre « Que ma joie demeure » de Jean Giono, lu par Robin Renucci. Fragment, un seul en scène avec Bérangère Varluzel, dans une mise en scène de Charles Berling. Un autre seul en scène, celui de Laurent Suire, Martin Luther King, La force d'aimer, que nous avions reçu dans Solae. Une promenade poétique, un culte artistique, un hommage à Anne Sylvestre, des chants polyphoniques sacrés, un spectacle autour de l'évangile de Marc, une nuit de l'éthique, un débat sur l'inclusion et des ciné-débats tous les après-midi que j'aurai le plaisir d'animer avec le temps d'un café, un espace d'échange avec les artistes et les festivaliers chaque matin. Rencontre avec ces artistes que vous pourrez entendre durant les 4 premiers dimanches du mois d'août sur France Culture dans Solae. Pour réserver vos places, avoir toutes les informations nécessaires, direction le site web du festival, festivalart au pluriel de la parole.com. Et je vous dis au revoir Thibaut Foulon, en nous séparant avec un morceau absolument sublime, Love Supreme, Part 1, John Coltrane.
Au revoir.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Cédric Chatelus à la prise de son. Émission que vous pouvez réécouter sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou bien en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin sur France 2, de 10h à 11h, c'est la matinée spéciale Présence protestante et le jour du Seigneur depuis le camp de Flossenbürg en Allemagne pour commémorer la libération des camps en 1945. Émission qui avait été annulée le 11 mai dernier suite au décès du pape François. Ce programme spécial commencera par la rediffusion à 10h du documentaire Dietrich Bonhoeffer, Le courage d'une conviction, et sera suivi par un plateau dédié de 10h30 à 11h. Mais sur France Culture, vos programmes continuent naturellement avec dans quelques instants Talmudique présenté par Marc-Alain Wacknin, juste après vos informations. Et moi je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun et beaucoup de bonne et de belle musique dans les oreilles. Au revoir.